À peu de choses près, Facebook était devenu Internet. Un Internet humanisé, amical et privé, une métaphore opérationnelle d'Internet. L'humanité déposait massivement des commentaires et des images sur le mur éternel du réseau social. Alimenter sa page Facebook était vécu comme une activité sérieuse, la plus sérieuse de toutes, entre affirmation identitaire et relâchement narcissique. Les éléments postés acquirent très vite une importance déterminante. La sélection naturelle des qualités morales opérées par le réseau était impitoyable. Facebook était un monde concave et bouclé, coupé du sol. Les branchages algorithmiques de Facebook formaient pourtant une résille capable de capturer la vie. Les hommes étaient devenus des robots calculateurs, susceptibles et sociaux. On assistait à des tests de Turing inversés. La vie articulait des petites portions de codes automatisés en réaction à des stimuli simples. La vie se résolvait dans des contacts, dans des constats électroniques. Les êtres humains, privés de leurs organes biologiques, n'y échangeaient plus que des informations. La touche « j'aime » était froide. Facebook s'était transformé en inconscient collectif, puis en tribunal du jugement dernier, les vies humaines entrecroisées et névrotiques y prenaient la forme d'un bûcher de bois sec. Les milliards de pages Facebook offraient un résumé complet de l'humanité et garantissaient, dans l'hypothèse de son extinction soudaine, sa restitution complète. Mais Facebook n'était pas une machine entière, c'était le ruban perforé, le disque magnétique ou la carte mémoire. L'autre partie de la machine, sa tête de lecture-écriture, restait à construire pour pallier les défaillances de son moteur actuel, trop profondément lié au caractère périssable du corps humain. On appelait VER, en informatique, les logiciels capables de se répliquer à travers les réseaux. Ils furent souvent décrits comme une forme de vie numérique élémentaire. Si les vers observés par Darwin fabriquaient le substrat sur lequel la vie terrestre s'enracinait, les longues lignes de code qui constituaient Facebook avaient creusé des galeries qui allaient permettre à la vie de franchir un nouveau seuil et devenir coloniser l'espace vierge des data centers et l'immensité neigeuse du nuage informatique. Je tousse dans mon coude. Pour Pascal, la vie pourrait connaître ici, dans cette canopée virtuelle, loin du terreau humide et flou de ses origines, une nouvelle évolution. Le réseau était prêt à prendre feu et il allait provoquer l'étincelle. Pascal admirait Mark Zuckerberg, mais trouvait le jeune milliardaire un peu timide. Il avait réussi, en seulement quelques années, à devenir le premier éditeur de contenu d'Internet et à rassembler la base de données la plus complète qui ait jamais existé sur la vie humaine. Il était même parvenu à s'en rendre propriétaire. Toute image ou tout texte publié sur Facebook était également sa possession. L'exploitation de ces données ne dépendait que de lui. Mais Zuckerberg se révélait à cet égard décevant. Devenu après Google Earth l'unique photographie d'un écosystème entier, Facebook laissait la vie moléculaire cristalliser en silence dans ses grands réservoirs de silicium. Zuckerberg semblait, au mieux, ne poursuivre qu'un but relativement mesquin, monétiser au plus vite ce stock incommensurable. Il était, à sa décharge, obligé de rentabiliser Facebook pour apporter un démenti rapide aux analystes qui prophétisaient l'explosion de la bulle 2.0. Pour se prémunir contre une telle catastrophe, Facebook devait devenir la plateforme publicitaire de référence, un social media capable de succéder aux mass médias traditionnels. Tandis que les milieux politiques virent dans ce social media l'incarnation la plus aboutie du soft power, allant jusqu'à évoquer avec un enthousiasme mêlé de crainte la naissance d'une citoyenneté numérique mondiale, Facebook compterait bientôt plus d'habitants que la Chine. La communauté informatique, d'obédience plutôt libertaire, accusait, elle, Facebook de dévoyer les idéaux libéraux et décentralisateurs d'Internet et juger la politique de confidentialité du site qui revendiquait les données personnelles de ses membres à des tiers opaques et liberticides. Je bois un peu. Pascal déplorait au contraire la prudence excessive de Facebook, car il avait pris la mesure exacte de ce que Facebook était. Un projet biopolitique. Il avait compris l'objectif messianique de Zuckerberg. Facebook devait permettre d'opérer la conversion numérique de la vie et d'établir ainsi la version bêta du paradis. Zuckerberg s'était d'ailleurs montré très explicite à ce sujet. Selon la croyance populaire, je le cite, « Quand on va au paradis, on y retrouve tous ses amis et tous ensemble, à ce que l'on espérait, Ensemble, faisons un monde aussi bien que ça. Il manque un peu une petite musique derrière. Bon, c'est pas dans le texte, mais ça ferait une super publicité. C'est tellement beau. Je continue. Zuckerberg était de toute évidence dans une impasse. Il envoya alors un signe à Pascal, le nouveau héros des systèmes propriétaires, après Bill Gates et Steve Jobs, accomplit un geste d'ouverture en direction de la communauté des libristes, les partisans des systèmes ouverts. Zuckerberg, après avoir inauguré son data center Amiral, en rendit public toutes les spécifications techniques. Quiconque disposait de moyens financiers adéquats était désormais en mesure de fabriquer un miroir de Facebook pour en continuer les expérimentations post-humaines. Ni Google, ni Apple, ni même RenRen, le clone chinois de Facebook, ne pouvaient bien sûr se permettre une telle opération de piratage. Contraire à toutes les législations du monde, l'annonce de Zuckerberg ne pouvait intéresser que des mécènes milliardaires singularistes. Pascal parvint facilement à se convaincre qu'elle lui était destinée. Il accepta le défi que Zuckerberg lui proposait de relever. Il allait désormais engager sa fortune à jouer le business angel d'un paradis électronique pirate. L'opération Canopée put alors commencer. Les équipes de Pascal commencèrent par créer une application Facebook nommée Six Degrees, qui permettait à celui qui l'installait de connaître son degré de séparation avec n'importe quel inconnu qu'il avait également installé. Six Degrees fournit très vite des données expérimentales sur la structure mathématique de Facebook. La séparation moyenne entre deux membres du réseau était ainsi de 5,73, chiffre qui avait tendance à baisser. Six Degrees permit de partiellement reconstituer le graphe de Facebook et de calculer quelles étaient les meilleures stratégies pour pirater le site. En implantant le nombre exact d'artefacts humains nécessaires à la capture complète de tous les membres dans les liens d'amitié imaginaires. Seul le lien d'amitié permettait en effet d'accéder au profil complet d'un utilisateur de Facebook. Sans ce lien, aucun robot indexeur ne pouvait pénétrer à l'intérieur du site. Ces abysses informatiques étaient appelés le web profond. Les programmateurs de Pascal simulèrent donc la population d'une métropole moyenne. Ils générèrent pour cela des profils aléatoires probables, allant jusqu'à réactiver dans une vieille unité mémoire que Pascal avait gardée, la base de données du 3615 inversé, pour y rechercher des noms propres crédibles et des prénoms adaptés. La solution retenue pour doter ces créatures virtuelles de visages humains acceptables, qui ne soient ni trop synthétiques ni trop caractérisés, fut de prendre le visage de Pascal et de l'anamorphoser à plusieurs milliers d'exemplaires. Pascal fit défiler pendant des jours entiers ses faces homéostatiques et androgynes qui lui ressemblaient toutes, mais qui ne se ressemblaient pas entre elles. La supercherie était indétectable. Les clones de Pascal s'emparèrent en quelques semaines à plus de 80% du réseau social, grâce à leurs recherches inlassables d'amis. À chaque fois qu'une personne réelle acceptait la requête amicale d'un de ses clones, un logiciel recopiait aussitôt toutes les informations de son profil. Chaque Ertangé robot atteint très vite le seuil des 5000 amis, limite arbitraire fixée par Facebook, grâce à des taux de refus étrangement faibles des personnes qu'il sollicitait. L'homme était au fond une espèce un peu naïve. Le spamming, qui pouvait servir de paradigme à l'étude des rencontres entre hommes et robots, demeurait ainsi une activité rentable. Un message sur 12 millions recevant une réponse. En remplaçant ces robots par des hommes, comme le montrait l'exemple du porte-à-porte pratiqué par les témoins de Jéhovah, on atteignait facilement des taux de réussite plus élevés, de l'ordre d'une conversion toutes les 8000 heures de prédication. La méthode de recrutement de l'opération Canopée combinait astucieusement la force de frappe massive des logiciels robots et le côté humain du porte-à-porte. Le piratage de Facebook fut un succès complet. Pascal était parvenu à échantillonner, grâce aux photographies qu'ils avaient prises et aux énoncés qu'ils avaient écrits, les vies d'un milliard d'êtres humains. Ooh!
Aller mieux alors. It won't be better ou it will be better?
It will.
It will. Ah ok, ça va. Restons optimistes. Bah merci. Alors j'ai noté plusieurs trucs dans ce que tu as dit. À un moment, tu parles du coup des sujets qui apparaissent dans Face. Enfin non, le bouquin dit la sélection naturelle des sujets. C'est assez flippant de voir que du coup, c'est les algorithmes et leur. Le fait qu'ils sont likés, qu'ils sont aimés, cliqués, etc. Du coup, c'est ça qui devient la sélection naturelle des sujets qui sont portés par Facebook ou par les personnes qui ont leur compte sur Facebook. J'ai bien aimé, malgré peut-être que je pense que le fait de présenter Facebook comme l'unique photographe du monde, à l'instar de Google Earth, il y avait... C'est ça en fait, une fois que tu numérises, que tu mets en nombre, après tu peux facilement stocker et prendre des photos instantanées en permanence d'ailleurs du monde entier quoi. Je pense que l'État aussi, les États et les gouvernements s'y occupent très bien et bravo pour avoir placé le mot incommensurable, j'essaye de le placer depuis deux émissions, j'y arrive pas. mais du coup... pourquoi il parle de Facebook au passé et du coup est-ce qu'il faut comprendre que ça va anticiper la fin de Facebook ou est-ce que tu as fini
bah, dans la lecture ouais. ça la situe la fin de Facebook puisqu'il se fait
par rapport à Six Degrees
se racheter en fait c'est une histoire ouais. du plus riche quoi c'est vraiment une histoire de du pouvoir des milliardaires concrètement le pouvoir de l'argent et après je sais plus, je voulais revenir à ce que tu disais au début par rapport à la touche like, c'est ça ?
La sélection naturelle.
En fait, la sélection naturelle, pour moi, sur l'Internet, elle est assez simple, puisque c'est des systèmes soit 0, soit 1. Donc, soit effectivement, je n'aime ou je n'aime pas. La nuance, elle est tout de suite elle est évacuée. Et ça permet du classement bien plus facile, du fichage bien plus facile. Et pour tout ce qui suit après, c'est-à-dire... L'intelligence artificielle, ils veulent nous faire croire qu'ils vont mettre de la nuance dans des robots et que les. Moi, j'y crois pas trop, ça me fait un peu peur. Enfin, pour rappel, je vous recite la phrase de Danny Illis : nous construisons une machine qui sera fière de nous. Bon, d'accord, ok. Vous la voyez à quoi elle va ressembler, cette belle machine ? Ça va être magnifique.
On assiste au sujet de l'intelligence artificielle à des belles conneries, des belles conférences d'espèces de profs de philo, de fac privée d'ailleurs, sur l'intelligence artificielle qui finissent par te dire « Non mais regardez, l'intelligence artificielle c'est super, on est en train de programmer un logiciel qui va différencier un être d'un peuplier. » Et du coup, dans la forêt, c'est trop cool et tout. Et on en revient à des trucs vraiment crétins, quoi. Et ça passe. Ça passe dans des conférences avec des intellos. Bon, peut-être qu'on s'écarte du sujet.
Je ne sais pas quoi dire.
Et du coup, l'opération Canopée, dans ton bouquin, elle va réussir à détruire Facebook, là.
Ah bah, je peux pas vous raconter la fin du livre. Ah bah oui. Enfin, l'idée, ça serait quand même que vous puissiez le lire. Bah vous racontez la fin. En fait, c'est un roman d'anticipation qui je trouve que ce qui est intéressant dans ce roman, pour moi, c'est la naissance, en fait, la naissance des réseaux informatiques avec le Minitel. Souvenez-vous, le Minitel, c'est cette machine. Et en fait, je vais résumer vite fait, mais voilà, le Minitel, ça a explosé à cause de quoi ? À cause du sexe, parce que c'est le sexe, c'était un lieu où les gens pouvaient s'exprimer. Et c'est là-dessus où vous avez fait la fortune, si vous avez échanger des messages à caractère sexuel sur le Minitel à l'époque, vous avez contribué à faire la fortune de Xavier Niel et d'autres sorciers du web. Voilà. J'ai un petit poème, enfin même une petite chanson de l'époque, 1985, donc un petit peu les débuts du Minitel. Donc on parle de modernité à l'époque. Et c'est une petite chanson de Françoise, avec des textes de Françoise Malé-Joris et Marie-Paul Bell. Donc c'était le Minitel. D'abord, j'hésite. Pardon. Ça pourrait être aussi dans le cadre de la nouvelle
érotique. Okay.
Hein. D'abord, j'hésite, je n'ose pas. Puis je l'effleure de mes doigts. Et tout de suite, il réagit. Que ça va vite, je rougis. Moi qui ai un petit problème de langage, avec des gestes, je suis beaucoup moins sage. Je suis timide, mais je crois que j'ai fait une touche. Je me décide et mon message le touche. Oui, j'ose, elle ose. Maintenant, je vois la vie en rose. Mini, mini, minitel, timi, timi, timidité. C'est pas crimi, crimi, criminel. Mini, mini, mini péché. Mini, mini, minitel. C'est beau, non ? Hein ?
Et donc ça, c'est à l'introduction du bouquin, c'est ça ?
Ça fait partie des ouvertures de paragraphes. Certaines fois. Parce qu'effectivement, le roman s'appuie vraiment sur le réel. On y croise des gens comme les Dassault, les Steve Jobs, les
Zuckerberg, du coup.
Les Zuckerberg, bien sûr. On y croise même Bernard Herrmann, qui est dans le roman. Intéressant. Voilà.
Ok. Et ben, du coup, moi, je vais juste conclure en disant que Canopée, ironiquement, c'est aussi une centrale de l'éducation nationale pour faire de l'éducation numérique. Et du coup, c'est drôle de voir que la Canopée, c'est plutôt. Enfin, c'est aussi un truc numérique, mais qui va essayer de verrouiller Facebook, quoi.
Ouais.
Mais en fait, non, c'est un organisme d'État. Enfin, dans la vraie vie, c'est un organisme d'État pour formater les gamins. Enfin, si on le dit crûment, formater les gamins à se gaver de numérique encore plus, quoi. Voilà, c'est une base de données.
C'était Striptease, interprété par alors Batoumambe, c'est une fanfare du Combo belge.
Ah oui, on a déjà écouté un morceau, je crois, de l'orchestre régional du Batoumambe, non ?
Peut-être. République Ou, démocratique non,
peut-être
du Congo.
Non, peut-être que je... Ah, faut boire plus près. Et bon, bah, il est... Quelle heure il est ? Il est 13h25. Ça veut dire que si vous nous écoutez à 19h, en fait, vous écoutez l'enregistrement de cette émission et vous n'avez pas très bien suivi. On avait prévenu pourtant qu'on changeait subrepticement d'horaire et qu'on commençait en live du coup à midi. Du coup, pour nous joindre, c'est plutôt maintenant entre midi et 14h et au 07 53 15 33 68.
Ou par mail à 39-9@raze.net.
Et l'adresse du blog.
L'adresse du blog, c'est
l'adresse
399fm.
Point.
Noblogs.
Point org.
Vous le répétez pas.